Bonjour, on est mardi matin sur Aligre FM et c'est La vie est un roman. Aujourd'hui, je suis avec Georges Libert et sa compagne, si j'ai bien saisi, qui s'appelle Vera Sou. Et donc, nous allons vous parler d'un livre, Coup d'État à Pékin, écrit par deux Chinois qui sont à New York. Opin, vous m'excuserez pour les accents chinois, je vais essayer de ne pas prononcer trop de noms propres, mais Opin et Yuan Wen Guang. Et alors, bonjour. Donc,
bonjour.
Et donc, ce livre est absolument formidable. Il est paru chez Stalkin en 2017, donc récemment. Et c'est un livre qui raconte une histoire qui... Il est arrivé un fait divers, et ce fait divers a changé, en quelque sorte, l'histoire récente de la Chine. Mmh. Alors, je vais vous laisser raconter ce fait divers.
À l'origine, ce qui a déclenché cette affaire, c'est la découverte, en novembre 2011, dans un hôtel près de Chongqing. Il faut préciser que Chongqing est une métropole de 32 millions d'habitants, ce qui déjà ne manque pas de surprendre. Et dans une chambre d'une des villas de cet hôtel, on retrouve le cadavre d'un citoyen britannique nommé Neil Heywood. Et à partir de là, va se déclencher une réaction en chaîne qui va conduire à l'élimination du chef du parti communiste de la province et de la ville, Chongqing, qui s'appelle Bo Xilai, de sa femme, Wu Kalai, mais auparavant, et aussi du chef de la police, Wang Lijun. Alors, je vais essayer de faire court.
On a le temps, on a une heure.
Et pas très, oui, mais pas très compliqué, parce que c'est... Il y a
des
ramifications à l'infini. Bo Xilai, c'est un fils de prince. Alors, une précision, que veut dire fils de prince? C'est une expression qui a été forgée par un des deux auteurs, Ropin, un des deux journalistes dissidents vivant aux États-Unis et qui suit l'actualité chinoise avec un site qui s'appelle...
Minjing News.
Minjing News, un site très fréquenté et alimenté à la fois par des informations de dissidents, mais aussi des informations provenant du régime lui-même, qui a appris à se servir, enfin les membres du parti ont appris à se servir des radios étrangères, de la presse étrangère. Donc, un fils de prince, c'est le fils d'un dignitaire du parti, d'un des vétérans de la Révolution, qui ont accompagné Mao, et qui lui ont survécu. Par exemple, Xi Jinping est lui aussi un fils de prince. Il a suivi une carrière exactement parallèle à celle de Bo Xilai. Bo Xilai, comme Xi Jinping et comme d'autres, sa famille et lui-même ont souffert pendant la révolution culturelle. Son père, Bo Yibo, un éminent dirigeant, a été persécuté et les auteurs précisent même que pendant la révolution culturelle, son fils l'a giflé au cours d'une séance d'humiliation et d'autocritique collective, publique. Il lui aurait même donné un coup de pied dans le ventre, à quoi le père aurait répondu que ce fils promettait. Et le fils, effectivement, a tenu pendant les promesses du père, après avoir commencé à la base, mais, j'insiste, en ayant souffert énormément pendant la révolution culturelle, où il vivait dans les rues, avant d'être entraîné par Mao, envoyé à la campagne, comme le Xi Jinping, pour se rééduquer, il a gravi les échelons du parti, dans la province, pardon, excuse-moi, dans la province de Lijin, non, c'est ça.
Liaoning.
On n'a pas d'eau par hasard, non.
On n'a pas d'eau, non.
Non, non, bon. Je vais essayer de tenir, excusez-moi. Et en devenant maire de Dalian, une métropole du Nord, où il a scié son pouvoir, avant de devenir ministre du Commerce, puis chef du parti à Chongqing. Alors, Boxilai joue la carte de ce qu'on appellerait la gauche au sein du parti. Appellation qu'il faut prendre avec précaution, parce qu'on oppose souvent les conservateurs aux membres de gauche. En fait, ce sont des appellations interchangeables, mais lui a joué une carte de gauche en menant une politique sociale très active à Chongqing, en luttant contre la criminalité, mais aussi en invoquant Mao Tse-tung.
Est-ce qu'on pourrait dire, juste une précision,
oui.
On peut dire qu'il y a deux camps. Il y a un camp qui est appelé la Ligue par les auteurs, et l'autre qui est appelé les Fils de Prince.
Oui.
La Ligue, c'est des bons élèves, c'est ceux qui réussissent par leur propre mérite, la Ligue de la Jeunesse, et les Fils de Prince, c'est les héritiers. Et donc on est dans cette figure.
Oh, merci.
J'ai beaucoup pensé à Florence, par exemple. On va voir qu'il y a un flic qui est très important et qui fait penser à un condottiere florentin, c'est-à-dire un homme de pouvoir, un exécutif, quelqu'un qui assure la répression. Et c'est des figures qui sont très... Je pense à Machiavel, bien sûr. Ces figures qui sont des invariants dans l'histoire. L'homme de main qui prend de plus ou moins de pouvoir et qui, à un moment donné...
Cela dit,
est appelé à disparaître parce qu'il a dépassé ce qu'on attend de lui.
Cela dit, Boxilai et Xi Jinping, pour prendre toujours ces deux exemples, ont connu des jours très difficiles dans leur jeunesse, du temps de la révolution culturelle, puis lors de leur rééducation à la campagne. Ils ont commencé à la base, même s'ils étaient protégés.
Oui, les héritiers
ont bavé.
Voilà, donc c'est en plus, ça leur donne un petit côté.
Ils en ont bavé.
Des résilients.
Ce qui ne les empêche pas de se réclamer de Mao.
C'est extraordinaire.
Parce que c'est ça, un des paradoxes que met en lumière le livre, c'est que ces gens, victimes de la révolution culturelle, leur famille, par exemple la mère de Boxilai, a été tuée par les gardes rouges. Battue à mort dans le train qui l'a ramenée à Pékin où elle devait témoigner contre son mari. C'est des gens qui ont été élevés aussi à la dure. Mais ça ne les empêche pas de se réclamer de Mao. Ce que faisait ouvertement Boxilai à Chongqing en menant des campagnes, notamment qui intitulées « Broyer le noir et chanter rouge » en remettant en vigueur des chants maoïstes, ce qui lui valait une certaine hostilité de membres du parti au sommet, mais aussi une grande popularité. Parce qu'il menait une politique sociale efficace. Pardon. L'atmosphère du studio est assez sèche. Ça me rappelle la radio.
Non, c'est bien, on a l'impression d'être dans le lointain. C'est vraiment le paradoxe des paradoxes.
Oui.
Mais on pourrait résumer ça en disant qu'il n'y a pas d'espace en dehors du système, visiblement. Ce que j'ai retenu d'une intervention de Marie Holzmann, c'est que c'est un régime totalitaire dans lequel il n'y a pas d'opposition. Donc des choses comme gauche-droite n'ont aucun sens, puisque tout le monde est dans le système et il n'y a aucun espace à l'extérieur et c'est juste une lutte pour les places. D'accord. C'est ça, en gros, que raconte le livre.
Oui.
Alors, on pourrait peut-être raconter le fait divers pour intéresser les gens.
Alors, donc...
Le côté anecdotique.
Le cadavre de cet Anglais. Qui est cet Anglais ? Nailewood est un citoyen britannique, qui est venu chercher fortune en Chine. Et qui s'est trouvé... à Dalian... où il a été présenté à la famille Bro, avec laquelle il a fait des affaires. Des affaires plus ou moins heureuses, et il n'a pas vraiment réussi ce qu'il avait ambitionné de faire. parce qu'il voulait être servir d'intermédiaire avec des entreprises occidentales pour s'installer en Chine. Il avait des projets immobiliers qui n'ont pas été toujours couronnés de succès. Mais enfin, il était devenu un proche, un familier du couple et du fils de ce couple, Bo Guagua, lequel faisait des études en Angleterre.
Alors ça, on pourrait dire que c'est aussi typique du système. Donc les héritiers envoient leurs enfants faire des études dans les grandes écoles étrangères.
Oui, ils envoient de l'argent.
On a une caste, en fait. On a une caste avec des privilèges.
Alors, il a été élevé à Harrow avant d'entrer dans je crois que c'est à Oxford ou Cambridge. Oxford, pardon. Nelly Wood lui servait en Angleterre un peu de correspondant, de parrain. Il le sortait, etc. Et semble-t-il, Nelly Wood s'estimait floué de n'avoir pas touché les commissions qu'il devait toucher sur les projets urbanistiques qu'il avait conçus pour Box Hill High à Dalian et puis à Chongqing. Et le conflit se serait envenimé. Il aurait proféré des menaces, je dis tout ça au conditionnel, hein. Il aurait préféré des menaces à l'encontre de Bo Guagua. Et Gukalai, la mère de Bo Guagua, aurait décidé de le supprimer. Je dis aurait, hein, j'y insiste, parce qu'une des caractéristiques piquantes du livre, c'est, vous l'avez sans doute constaté vous-même, plus on avance dans l'enquête, moins on est sûr de ce qui s'est passé. C'est un polar où l'enquête accumule les doutes, les soupçons, et sans qu'on soit vraiment sûr. La version officielle de Pékin, c'est que Nelly Wood a été assassinée, empoisonnée par Gukalai, donc la femme de Box Hill High. Intervient là un troisième personnage clé du livre, le chef de la police de Chongqing, Wang Lijun, une sorte de Zorro de la police chinoise, ayant mené des campagnes d'éradication du crime, sans s'embarrasser beaucoup de scrupules ni du respect de la loi, mais semble-t-il efficace, et qui ambitionnait de devenir membre du bureau politique du parti à Chongqing. Promotion que Box Hill High lui refusait. Donc il y a une rivalité entre ces deux hommes. L'autre s'estime maltraité par Box Hill High. C'est lui qui mène l'enquête, bien entendu, après la découverte du corps de Nelly Wood. Ce personnage, descendant de Gengis Khan, comme la plupart des Mongols, est donc un homme sans beaucoup de foi ni beaucoup de loi. il est vraisemblable qu'il a fait chanter Gukalai pour obtenir de Box Hill High la promotion qu'il convoitait, sans succès. Ce qui l'entraîne dans sa rivalité avec Box Hill High, il se sent menacé et c'est là où l'affaire prend une dimension assez spectaculaire et même à certains égards comique. Il fait défection au consulat américain de la province voisine. A-t-il vraiment voulu faire défection? C'est loin d'être sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il a voulu, par là même, se sauver, échapper aux menaces qu'il sentait peser sur lui de la part de Box Hill High. Alors, c'est un épisode qui a dû beaucoup vous amuser, je suppose. Lorsqu'il fait défection au consulat américain, bon, les Américains sont très surpris, ils ne savent pas à qui ils ont vraiment affaire. Wang Lijun fait des révélations sur Box Hill High, la corruption endémique, on y reviendra certainement dans le régime, et sur cette affaire Haywood. Boxilai essaye de récupérer Wang Lijun en envoyant des forces de police qui se trouvent s'affronter avec les forces de police de la province voisine. La gendarmerie envoyée par le pouvoir central se trouve confrontée à ces deux forces de police et quatrième élément policier, les marines du consulat, protège Wang Lijun à l'intérieur. Donc il y a un moment donné, il y a quatre forces armées qui se regardent en chien de faïence autour du au consulat américain. Et Wang Lijun demande à gagner Pékin. Il est protégé aussi à Pékin et va être incarcéré. Et la suite, Boxilai qui convoite qui ambitionne de devenir membre du bureau politique du parti. Il faut dire, le bureau politique, c'est 9 membres.
C'est, hein, le pouvoir, ouais.
C'est le pouvoir suprême, issu... Erreur. Le bureau politique compte 25 membres, desquels émanent 9 membres, puis 7 qui composent le comité permanent. C'est le comité permanent qui est... le centre névralgique du pouvoir en Chine. Donc, Boxilai ambitionne de devenir membre du comité permanent, il est membre du bureau politique, au congrès du parti qui se tient en novembre de cette année-là, 2012. Sa promotion paraît enrayée. Et finalement, il sera inculpé sous des chefs d'accusation quelquefois fantaisistes. On l'accuse de corruption, bien entendu. Mais au bout du compte, on lui reproche d'avoir touché des pots de vin pour un montant de 3 millions d'euros, ce qui est dérisoire. Et comme l'ont relevé des internautes chinois... C'était une somme qu'un gouverneur de petite province se mettait facilement dans la poche. On l'a accusé aussi de liaisons inconvenantes avec des femmes. Alors là, Boxilai a une réputation de Don Juan, qui lui a valu le surnom en chinois de Bobite en l'air, car il aurait eu de nombreuses conquêtes, une centaine, dit-on, en particulier des actrices... puisque les studios de cinéma et les studios de télévision chinois constituent des harems pour les hauts dirigeants. En tous les cas, il est traduit en justice dans un procès qu'on peut dire un peu bâclé. Il va être condamné à la détention à perpétuité et sa femme, accusée d'empoisonnement, ce qu'elle reconnaît officiellement, est elle aussi condamnée. Il est vraisemblable que Boxilai s'est accusé pour protéger son mari, quoiqu'ils fussent séparés à l'époque, et surtout son fils qui était à l'étranger. Wang Lijun, lui, a été condamné à combien d'années de détention ?
15 ans.
15 ans. Et la purge s'est poursuivie. Et c'est là où s'explique le titre du livre, Coup d'État à Pékin, c'est qu'il est probable que Boxilai, appuyé par Su Yongkang, Su Yongkang, un personnage aussi haut en couleur, ancien patron de l'industrie pétrolière chinoise, donc un énorme conglomérat, si on peut dire, et qui est devenu... le patron de la justice et de la police dans toute, chinoise, membre du comité permanent, il est probable que Su Yongkang et Boxilai ont fait plus que songer à enrayer le processus de désignation de Xi Jinping pour prendre le pouvoir. Et c'est ce qui ressort du procès qui a été fait après à Su Yongkang, où il est accusé d'avoir mené des activités politiques inorganisées. C'est un euphémisme qui pèse lourd et qui lui a valu d'être éliminé du comité permanent. Voilà, si on veut résumer,
absolument,
ou mieux, le plus brièvement possible, ce qu'il faut souligner, c'est que les auteurs font des portraits remarquables des principaux protagonistes. On peut dire que c'est une histoire politique de la Chine depuis la mort de Mao, ou depuis la révolution culturelle, puisque cet épisode décisif est décisif pour la carrière de tous les acteurs évoqués et des précédents, Deng Xiaoping en premier, et puis, comment s'appelait-il, Hun Jintao, président de la République et secrétaire général du parti avant Xi Jinping, et Jiang Zemin, je prononce mal, hein. ça me vaut un sourire ironique de la directrice de collection. Jiang Zemin, tous ces gens sont admirablement portraiturés, ainsi que Gu Kalai, la femme de Bo Xilai, elle aussi victime de la révolution culturelle, elle s'est retrouvée travailler en usine, elle a été bouchère, puis joueuse de flûte chinoise.
Non, c'est pas la flûte chinoise,
non,
elle jouait la pipa, c'est une sorte de guitare.
De guitare, pardon.
Non, pipa.
Oui.
C'est une sorte de guitare chinoise.
Voilà. Et les auteurs font fréquemment des retours en arrière, des comparaisons avec le passé, parfois le plus lointain, de la Chine. Par exemple, à propos de Gu Kalai, elle incarne un personnage typique de l'histoire chinoise, de la littérature chinoise, l'eau empoisonnée. Nous dirions la femme fatale, celle qui ruine la carrière d'hommes puissants. Alors, ont été considérées comme des eaux empoisonnées dans le passé récent. La femme de Liu Shaoxi, qui était une femme très brillante et jalousée par la femme de Mao, et qui a été abominablement humiliée pendant la révolution culturelle avec son mari, où ils ont péri tous les deux. La femme de Mao lui-même, qui s'est suicidée après avoir été condamnée à la détention à perpétuité, si j'ai bonne mémoire. Donc il y a ces rapprochements avec le passé qui montrent la pérennité au fond d'un système de pouvoir. Ajoutons-y un élément fondamental qui est la corruption généralisée et sans laquelle le système ne pourrait fonctionner. Comme l'avait remarqué un expert, si la lutte contre la corruption triomphait en Chine, l'économie chinoise s'arrêterait. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a une corruption endémique et que l'accusation de corruption est un moyen pour les gens du pouvoir d'éliminer leurs rivaux. Pour donner un petit exemple pittoresque qui a dû vous frapper aussi, un général à la retraite, un haut gradé, a été arrêté. Bon, la campagne lancée par Xi Jinping contre la corruption pour éliminer ses rivaux. Et ce général a été arrêté, on a trouvé dans sa cave une tonne de devises. Euros, yuan, dollars. Il monnayait son influence pour les nominations au sein de l'armée, etc., etc. Il y a un personnage que moi, personnellement, j'ai trouvé attachant, qui était un homme d'affaires qui avait lié sa destinée à celle de Bo Xilai. Quel est son...
Xu Ming,
qui a fait fortune dans le sillage de Bo Xilai à Dalian puis à Chongqing, et qui a fini atteint d'une crise cardiaque en prison, après avoir été loyal et fidèle à Bo Xilai jusqu'au bout. Non, mais il n'a pas trahi lors des procès.
Ce qu'on pourrait dire, c'est si on reprend...
voilà, je crois avoir...
C'est très bien. Alors, on peut dire aussi que le cadavre est incinéré, donc l'affaire devait se passer sans bruit. Et ça, c'est... Donc, il y a un dysfonctionnement On est dans une espèce de, je pense à une peinture de Altorfer avec une espèce de champ cosmique comme ça. On a une espèce d'explosion cosmique autour de quelque chose qui est hyper anecdotique au départ. Et aussi, insister sur l'aspect portrait de la Chine actuelle. Par exemple, sur cette femme fatale, là, les auteurs disent, aux États-Unis, on dit qu'il y a toujours une femme derrière les grands hommes. Donc, les Américains, en instrumentalisant ce rôle de la femme qui est au service de l'homme, en font quelque chose de positif. On lui donne un marquage positif. En Chine, on lui donne un marquage négatif. Donc c'est encore une façon d'asseoir le pouvoir masculin, puisque si un fusible qui saute, c'est la femme. Et ça, c'est très clairement expliqué dans le film, dans le livre.
Peut-être Vera pourrait-elle à ce propos, nous dire ce qu'elle pense de Goukalaï, non. Bon, oh, c'était. Il nous soumet à l'épreuve de.
Enfin, Goukalaï n'est pas. Goukalaï est un personnage assez curieuse, puisque elle aussi, elle est victime de la révolution culturelle. Et comme elle a eu des discours très durs, comme tu as parlé tout à l'heure, elle travaillait comme boucher au marché. Et puis, c'est grâce à Pipe, qu'elle a joué comme. La musique qu'elle a jouée pour servir le ponction à la mort de Mao, qui lui a fait sortir de sa situation. Et après le mariage avec Bo Xilai, en effet, elle était seule pour, on pourrait dire, elle était seule pour élever, s'occuper de leurs enfants, car Bo Xilai était concentré de sa carrière politique. Et comme tu as indiqué tout à l'heure, il avait milliers de maîtresses. Enfin, selon les rumeurs, il partage centaines de maîtresses avec son parrain Zhou Yongkang. Et donc Goukalaï, à ce moment-là, était tellement affaiblie. Et en plus, elle avait des maladies psychologiques. Donc elle bouffait des tonnes de médicaments tous les jours. C'est à ce moment-là que Neil Raywood a pu gagner la confiance de la femme de Goukalaï en utilisant cette faiblesse et aussi le prétexte, c'est-à-dire de s'occuper de leur fils Guagua. D'ailleurs, je fais une traduction du prénom de Guagua, ça veut dire cornichon.
C'est le fils, donc.
C'est le fils. Pourquoi quoi? Donc, Haywood était son parrain et parrain de quoi à l'étranger. Et peut-être on soupçonne que c'était l'amant de Goukalaï. Alors, pour moi, c'est une femme plutôt triste qui a mené une vie triste. Mais est-ce que c'est vraiment l'eau empoisonnée par rapport aux autres femmes fatales citées dans le livre? Ça, je ne suis pas sûre.
Mais elle vit avec un playboy, donc elle est délaissée. C'est en fait, il y a cette image, hein, puisque il y a quelque chose de très cinématographique. On a un homme qui plaît, qui a du charisme,
bon.
Voilà.
Alors là,
c'est vraiment. Bon, je pensais vraiment à Florence, mais parce que c'est notre modèle, quoi. C'est le prince qui est beau, qui a du charisme, qui délaisse sa femme, qui a beaucoup de maîtresses, qui méprise ses hommes de main. Enfin,
alors il faut ajouter que. Le caractère de Bo Xilai, ce fils de prince, dans sa relation, par exemple, décisive avec le chef de la police, Fong Lijun, ce fils de prince se considère comme un élu et a tort, à mépriser Fong Lijun, qu'il ne considère pas de la même caste. Et je pense, les auteurs laisse clairement entendre que cette rivalité entre ces deux hommes a été attisée au sommet à Pékin par un haut responsable qu'il ne nomme pas et qui a vu un moyen de déstabiliser Bo Xilai, de l'éliminer de la course au pouvoir suprême. Et donc assurer la succession prévue à Xi Jinping.
D'accord, on va faire une petite pause musicale.
Oui.
Comme ça, ça me permettra de dire qu'on est sur Aligre FM, dans La vie est un roman, et qu'on est mardi matin, et qu'on parle de coup d'État à Pékin.
Paradise is exactly like where you are right now. Only much, much better. Saw this guy on the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry? Then language is a virus. Language, it's a virus. Well, I was talking to a friend, and I was saying, I wanted you, wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances of yours? Hot language, it's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida, because that's just my way of saying
that I love you.
Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry.
It's a job.
Sorry.
Language, it's a virus.
Make sounds that more or less sync up, sync up, sync up with their lips. That's what I think.
Language, it's a virus.
Somebody from TV, and there was a beautiful view, but nobody could see, 'cause everybody on the island was saying, look at me, look at me, look at me, look at me, why? Because they all got an island, the rose from the sea, and everybody on the island was somebody from TV, and there was a beautiful.
Alors bonjour, donc on est dans La vie est un roman sur Aligre FM et on parle d'un livre paru aux éditions Stalkin et compagnie, Coup d'État à Pékin, dont les deux auteurs, nous allons en parler après. Il y en a un qui est patron de presse et qui travaille beaucoup avec Internet, avec les rumeurs, avec des jeux de pouvoir. On leur donne des informations. Les clans travaillent les uns contre les autres. Donc on est parti d'un fait divers qui a eu une espèce de répercussion comme l'œil d'un cyclone, là, puisqu'on a parlé d'un ouragan qui a eu des répercussions sur le pouvoir en général. On pourrait peut-être juste encore raconter l'anecdote de la Ferrari, parce qu'elle est du même niveau. Et comme je ne sais pas prononcer les noms propres de tous ces gens, si quelqu'un peut raconter l'anecdote de la Ferrari.
Oui, j'ai beau traduire le livre, j'ai du mal à retenir... les noms.
Donc il y a un jeune homme qui se retrouve tout nu avec deux jeunes femmes qui se plantent avec une Ferrari et c'est le fils d'un grand dirigeant de la Chine.
Voilà, une Ferrari rouge avec deux jeunes filles dévêtues,
ouais,
demi-dévêtues, qui s'écrasent contre un pylône d'une grande artère de Pékin. Et il se trouve que c'est le fils du chef de cabinet du président à cette époque, Hu Jintao. Ce qui va contribuer beaucoup à affaiblir la position du président qui joue entre ces factions que nous avons évoquées au début. Comment s'appelle le chef de cabinet ?
Lin Jihua.
Juan. Dont le frère est maintenant réfugié aux États-Unis. Et fait, je crois, des révélations. Non, pas lui.
Non, il se tait.
Il se tait pour le moment. Non, c'est un milliardaire qui s'est réfugié récemment aux États-Unis et qui fait régulièrement des révélations. Il s'appelle
Guo Wengui.
Peut-être en avez-vous entendu parler.
Oui, c'était aussi, ça a été mentionné aussi par Marie Haussmann qui disait si on peut attaquer. C'est celui qui est dans la Hollywood, là, qui met de l'argent dans le cinéma, dans l'industrie du spectacle.
Je ne suis pas sûr.
Donc elle disait si on peut attaquer les milliardaires, c'est vraiment incroyable quoi le pouvoir, parce que c'est très mauvais pour les affaires.
Alors ce que vous disiez là, deux mots sur les auteurs, ce sont des dissidents vivant aux États-Unis. Ils ont créé ce site Mengjin News qui est extrêmement actif. En bénéficiant d'informations issues, je l'ai dit, et il le précise dans l'introduction du livre, dans mon propos, issues du système lui-même, et qu'il faut savoir utiliser, puisqu'ils disent qu'eux-mêmes ont commis certaines inexactitudes, qu'ils ont corrigées pour l'édition française, laquelle a été considérablement mise à jour par rapport à l'édition américaine, originale, et que donc... il faut être très prudent quand on utilise ces informations qui viennent du régime lui-même. Et l'affaire commence par un coup de téléphone anonyme adressé à Ho Pin, l'un des deux auteurs, le principal auteur du livre, qui lui annonce que le chef de la police de Chongqing, à savoir Wang Lijun, dont nous avons parlé, le Zorro de la police, a été démis de ses fonctions par Bo Xilai et confiné dans un poste honorifique de maire adjoint, si j'ai bonne mémoire, de Chongqing. Et donc il reçoit cette information, il le raconte de façon très vivante et qu'il recoupe aussitôt, essaye de croiser avec d'autres informations. Elles se révèlent exactes et à partir de là, l'enquête commence. Hein. Donc, c'est une information issue de Chine continentale, d'un personnage qui reste anonyme, et que Robin utilise et reçoit d'autres informations, y compris du sommet à Pékin.
Et il utilise beaucoup le site Weibo. Weibo, c'est un site équivalent de Twitter en Chine, que beaucoup d'internautes publient des choses. Enfin, je pense que le nombre de messages est peut-être 5 fois, 6 fois plus que Twitter.
Donc on a des millions et des millions de messages sans cesse. Et le temps qu'on les censure, il y a un moment où on peut les capter, quoi.
Alors, ce que mettent bien en valeur les auteurs, c'est qu'effectivement, il y a des... La police chinoise, le système met en place des contrefeux
avec des mots-clés et puis voilà, ils
interdisent, contourné par les internautes. Enfin, c'est une espèce de course de vitesse entre les internautes chinois et les autorités qui s'efforcent de contrer la diffusion des informations. Oui.
Et Ran Wenguang, l'autre auteur, il se faisait passer pour un touriste qui a séjourné une semaine à Chongqing, justement en novembre 2012, pour s'entretenir avec les responsables locaux, des officiers de police et des citoyens dans la rue pour recueillir les observations.
Et, ils ont fait un énorme travail.
Alors, leur conclusion, je vais juste lire un petit paragraphe de conclusion, est très radical. Donc là, je suis vraiment à la fin du livre. La mort étrange de Nell Heywood dans un endroit écarté aurait pu passer inaperçue sans la vulnérabilité névrotique de joueurs en rivalité pour conquérir le pouvoir et sans la corruption foncière du régime. Le chef de la police qui s'était fait trop d'ennemis et un politicien qui voulait à tout prix saisir la dernière chance de s'élever au poste suprême ont transformé un personnage mineur en un cancer au cœur du corps politique et ont manqué de compromettre le grand spectacle que celui-ci donne tous les 5 ans. Ce spectacle, le congrès du parti, s'est encore une fois déroulé comme prévu. On a vu défiler les nouveaux dirigeants et rien, sur le moment, n'est venu perturber le sentiment général que la Chine était en plein essor. Mais le parti communiste pourrait bien ne pas avoir autant de chance la prochaine fois. Et donc c'est carrément apocalyptique comme conclusion. Et il y a aussi... ici, il y a aussi des... Ah voilà. Dans la Chine ancienne, à la cour impériale, la succession du trône s'accompagnait presque toujours de complots et d'assassinats. Il en va de même au XXIe siècle, maintenant que le régime communiste est devenu une monarchie kleptocratique qui ne dit pas son nom.
Ouais.
Et donc c'est vraiment radical. Ceci dit, en lisant ce livre et en apprenant qu'un des deux auteurs est prospère et dispose d'un endroit luxueux pour accueillir les dirigeants qui viennent à New York, qui viennent lui parler... J'ai quand même l'impression que ce livre participe du pouvoir. C'est pas une dissidence à la soviétique où on est largué, où on n'a rien du tout. Cette Chine a l'air de générer effectivement... On a vraiment comme une espèce d'histoire de cour, comme une cour dans les histoires de royauté, avec énormément de moyens. Et d'ailleurs, il faudrait poser la question du statut des masses, en fait. Où est-ce que ça pourrait craquer sur la lutte des classes? Est-ce qu'il peut y avoir? Alors on voit qu'il compense aussi. C'est un livre où on apprend beaucoup de choses. Le style est un peu ingrat parce que c'est fait de rumeurs et de choses cousues un petit peu de façon lâche comme ça les unes aux autres. Et puis il y a beaucoup de noms propres, beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas au niveau des références. Mais par exemple, on voit que le pouvoir, quand il y a un endroit qui commence à faire problème, intervient et peut faire au niveau d'une province, par exemple, des investissements lourds. Je pense c'est un exemple absurde, mais à Paris, on a une prostitution chinoise qui est liée à la fin d'un tissu industriel qui a été ruiné. Donc, ces femmes s'exilent ici pour entretenir leur famille qui est restée au pays. Et donc, on pourrait intervenir, au niveau d'une province, imaginer une intervention pour transformer le tissu social entièrement, ou en tout cas... à commencer à impulser un mouvement qui ne laisse pas cette catastrophe aboutir trop loin, quoi. L'exil est aussi une solution, bien sûr. C'est aussi un mode de gouvernement, laisser les gens partir, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et, c'est passionnant, c'est un très très beau livre sur la question du pouvoir, mais dans un sens shakespearien, du terme, dans un sens. Il y a sûrement des références asiatiques nombreuses là-dessus.
Ce que je trouve, il montre bien. Je tiens à préciser que je ne suis pas sinologue.
Moi non.
J'ai appris à connaître la Chine en fréquentant et en publiant Simon Leys, René Viennet, co-traduisant la grande biographie de Mao que j'ai publiée chez Gallimard il y a quelques années. Donc ma connaissance de la Chine est limitée. Mais justement. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont les auteurs décrivent l'éruption d'un capitalisme, disons, sauvage, dans une structure totalitaire. La rencontre explosive entre un régime totalitaire et un capitalisme débridé. D'où cette corruption généralisée, ces luttes de pouvoir féroces, parce qu'elles s'accompagnent en même temps d'enrichissements colossaux, et je ne sais plus les chiffres, j'ai une exécrable mémoire des chiffres, mais les estimations, l'estimation des sommes placées à l'étranger par les hiérarques chinois, c'est gigantesque. Donc ça, j'ai trouvé que le livre était une très bonne introduction à la Chine contemporaine et à cette histoire d'une société qui a été effroyablement brutalisée sous le règne de Mao, et la révolution culturelle sur laquelle on apprend de plus en plus de choses, des témoignages souvent extraordinaires, oui, on peut dire brutaliser cette population et l'a rendue, l'a ensauvagée en quelque manière. Et si vous imaginez l'éruption du capitalisme dans ces mentalités, c'est ravageur. Je crois qu'il faut rappeler quand même que la révolution culturelle a fait plus de 4 millions de morts. Et qu'elle n'était ni révolutionnaire ni culturelle, mais une guerre civile déclenchée par le grand timonier, comme on l'appelait à l'époque, et qui continue encore à avoir des admirateurs, y compris dans notre pays.
J'ai un point commun avec Leiss, je suis belge moi aussi. Mmh. C'est amusant. Oui. Mais
ses livres ont été.
Et là, parce qu'il raconte une histoire de Belge où il dit du mal d'Henri Michaud, qui est vraiment formidable, mais je ne vais pas raconter ça maintenant. Mais ce qu'on apprend en fait, c'est la plasticité du système totalitaire. Par exemple, moi, je dois avoir à peu près l'âge de Simon Leiss, et on a grandi dans un grand climat en Occident et particulièrement en Belgique de répression sexuelle. Et on pensait qu'il n'était pas possible de libéraliser le sexe et de continuer à avoir une société productive comme elle était, une société normée. Par exemple, on faisait un service militaire qui n'était pas dirigé contre l'étranger, mais qui était un calibrage de la population pour l'envoyer à l'usine. Mais il n'y a plus d'usine, hein, donc il s'est passé quelque chose. Et on a vu l'Occident libéraliser le sexe, et vraiment on peut dire qu'avec Internet, on ne peut pas imaginer quelque chose qui soit plus libéral que ça. Et ça n'a rien changé. Le système n'a pas bougé du tout. Et donc ça, je dis ça pour nos auditeurs, donc c'est pour faire une métaphore. On a un système totalitaire qui supporte un capitalisme sauvage et qui montre son incroyable plasticité. Cette corruption ne le gêne pas. On est passé d'un système qui était quand même ascétique, qui était dans l'abnégation, en tout cas de façade, même s'il y avait des privilèges. Par exemple, puisque je parlais de sexe, les privilèges sexuels de quelqu'un comme Mao Tse-tung sont bien connus, mais des choses comme ça. Mais et le système résiste. Donc c'est la question est de qu'est-ce qu'on appelle, comment, quelle est la définition. On avait cette impression que on identifie totalitaire avec une chape de plomb, avec quelque chose de très gris, avec quelque chose de très uniforme. On a plutôt tendance à penser totalitaire à Singapour, par exemple, parce que c'est maîtrisable. Et puisqu'on voit des gens qui sont en uniforme et qui font de la gymnastique le matin tous ensemble et qui ont 15-16 ans, quoi. C'est d'être à part la Corée du Nord, il n'y a plus tellement d'endroits comme ça. Mais la Chine nous fait donc un totalitarisme très coloré, très varié, avec des vitesses de développement selon les régions très différentes, avec un national-socialisme très prononcé. Hein. C'est un pays très nationaliste, quand même, qui est très, très dur avec ses minorités. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, et qui n'a pas d'opposition. C'est dans ce sens-là qu'il est totalitaire, je suis entièrement d'accord. Il n'y a aucune figure d'opposition à quelque niveau que ce soit. Il n'y a pas de pouvoir législatif, il n'y a pas de cour constitutionnelle, il n'y a pas de parti d'opposition. Et les dissidents ont même l'air d'appartenir aussi au pouvoir. C'est ça la plasticité. Et si j'ai un malaise par rapport à ce livre, il reste là. Il y a quelque chose. Le jeune homme était très maladroit et pathétique et puis égotiste un petit peu, là, celui qui est intervenu au débat qu'on a fait à la librairie. Mais il met le doigt sur quelque chose. Pourquoi ces informations nous paraissent être un fouillis de ramassis de choses qui n'ont pas la même valeur et qui demandent à être hiérarchisées? C'est très important. Qui donne? C'est-à-dire, il y a des informations qu'on obtient par une enquête, par une quête, etc. Et il y a des informations qu'on nous donne pour nous manipuler. Et là, il n'est pas fait de différence entre ce qui manipule et ce qui aurait une vérité, si ça existe, objective, ou une autre source que ces manipulations. Et à part ça, c'est absolument passionnant, c'est bouleversant, c'est vraiment formidable. C'est une très très bonne entrée dans la Chine contemporaine. Et le livre est révisé jusqu'en 2017.
C'est ça.
Dans la version française. Alors, on est dedans.
Pour appuyer votre première réflexion, qui est claire et explique aussi le paradoxe que nous avons évoqué tout à l'heure, à savoir que ces dirigeants, depuis Deng Xiaoping, ont tous été des victimes de Mao et que le régime continue à se réclamer de lui. Il faut avoir bien présent à l'esprit ce qui hante les dirigeants chinois, c'est l'implosion de l'URSS. Et pour eux, Gorbatchev est l'exemple à ne pas suivre. Surtout pas. Que si on commence à... Xi Jinping l'a dit dans plusieurs discours, plus ou moins confidentiels, si on commence à critiquer le fondateur du régime, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. En tous les cas, l'URSS est un précédent qui est dans tous les esprits de la nomenclatura chinoise. Surtout pas mettre en cause la légitimité du régime qui repose sur Mao. Donc, on peut dire certaines choses sur la révolution culturelle, mais par exemple, il y avait un musée qui lui était consacré, il a été fermé l'année dernière. Il peut y avoir certains témoignages, mais partiels. Il n'y a pas de remise en cause du fondement du régime, à savoir la pensée de Mao, même si on reconnaît qu'il y a eu des errements, mais comme disait, je crois que c'est Deng Xiaoping qui avait dit, 30% de négatifs, 70% de positifs. Donc si vous inversez la proposition, là vous allez en tôle. Hein, si vous avez les proportions. Remarquez bien que ce régime jouit de la complaisance des Occidentaux. Hein ?
Absolument.
Puisque les puissances occidentales ne rêvent que d'une chose, et nos hommes d'affaires, c'est d'aller gagner de l'argent en Chine.
De leur vendre des centrales atomiques, oui, en France.
N'importe quoi, sous-traiter là-bas avec une main-d'œuvre à bas prix, vous n'entendez pas de critiques, d'évocation des droits de l'homme, pas du tout. Le régime chinois jouit d'une grande impunité chez les Occidentaux.
Et donc le système serait incritiquable. Et donc en ce sens-là, extrêmement fragile.
Regardez par exemple le livre du fils de Bavrez, de Nicolas Bavrez, Paris-Pékin. Hein, c'est un livre pour dire mais il faut aller en Chine, pour la peine de soulever les questions épineuses, morales, des scrupules et autres, on peut faire de l'argent avec les Chinois. Voilà le mot d'ordre en Occident. Est-ce que je... je crois que...
On le vit tout le temps.
Vera
le
Made in China a été très frappé par la complaisance des milieux français, des milieux d'affaires, qu'il s'agisse de certains diplomates et de certains patrons d'entreprises à l'égard de la Chine.
On peut penser que le capitalisme est sans frontières et qu'il y a des versions locales du capitalisme, mais qui lui importent peu, en fait. Hein.
Oui,
parce qu'il y a quand même... Alors, les Américains, quoi. Oui. Toute l'informatique qui est faite en Chine, si j'ai bien compris, il n'y a pas une souris d'ordinateur qui n'est pas faite en Chine, il n'y a pas un iPod qui n'est pas fait en Chine, un smartphone...
Cela dit, le système, ce que montrent aussi les auteurs à la fin du livre, dans leur mise à jour, actualisation, la fragilité du système financier chinois... l'endettement considérable dû à des politiques de relance, puisqu'il faut maintenir un taux de croissance autour de 9-10%, et ce taux de croissance est maintenu grâce à des injections massives de liquidités dans l'économie, ce qui ne va pas sans danger pour le système bancaire, le système financier chinois. Donc c'est un système en même temps fragile.
Et on pourrait penser aussi à un talon d'Achille du côté de la pollution, du côté, puisqu'on parlait d'informatique et tous ces démantèlements d'ordinateurs avec de l'uranium dedans et je sais pas quoi. Enfin, là aussi, j'ai pas beaucoup de compétences, mais en même temps, on peut faire le pari inverse sur la plasticité, sur le renouvellement du système. On a quand même l'impression d'un géant avec des petites chevilles, mais c'est très difficile. Et donc, vous faites une collection.
Oui.
Et donc, vous allez publier un roman bientôt dans cette collection chez Stalkin. Vous êtes la directrice de collection.
Oui, ça fait 2 ans que je suis entrée dans cette maison d'édition généraliste, dont je m'occupe pour lancer. Enfin, je lance une collection du texte asiatique, dont notamment chinois et peut-être japonais. Alors, Coup d'État à Pékin, c'est mon premier titre. Et ensuite, nous projetons de publier une trilogie hongkongaise d'un roman. On n'a pas encore décidé le titre pour l'instant, mais le titre anglais s'appelle Once Upon a Time in Hong Kong. Donc, c'est une histoire picaresque qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le personnage est un paysan qui a fait tout le chemin, qui a rencontré les gens. Et puis, il est devenu un grand mafia à Hong Kong. Voilà.
D'accord. Ben, vous nous tiendrez au courant. Bon, à bientôt arriver au bout de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on raconte pour conclure? Je vous laisse le mot de la fin.
Bah, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que ce livre, vous l'avez vous-même souligné, est la meilleure introduction possible à l'histoire politique récente de la Chine. Enfin, récente depuis les années 70, et d'une actualité certaine, puisque en novembre prochain va se tenir le 19e congrès, et qu'on ne sait pas ce qui va vraiment s'y passer. Xi Jinping réunit sur lui, dans ses mains, plus de pouvoir qu'aucun dirigeant chinois n'en a eu depuis Mao. Que va-t-il faire? Essayer de se prolonger au
pouvoir? Il ne peut pas, normalement, non? Il a fait ses deux mandats.
Voilà, il y a une règle non écrite depuis Deng Xiaoping qu'un haut dirigeant ne peut exercer plus de 2 mandats de 5 ans. Mais on ne peut pas exclure une tentative, au moins, de se prolonger au pouvoir en invoquant les réformes qu'il est en train de faire, la fragilité de l'économie, etc., etc. Je ne suis pas assez expert.
On ne peut pas spéculer, effectivement, sur les possibilités qu'il a, mais logiquement, il devrait partir.
Mais en tous les cas, si on veut comprendre ce qui se passe à Pékin et ce qui va s'y passer en novembre, au cours du 19e congrès, il faut lire ce livre.
Et aussi, on pourrait dire sur le fait qu'un de ces des personnages très âgés, et ils peuvent quitter le pouvoir et le garder. Ils peuvent avoir un vassal qui nomme à leur place, et donc c'est quand même des clans.
Oui,
donc le pouvoir n'est pas nominatif, il est clanique.
Il est clanique parce qu'il y a des réseaux de clientèle, d'influence. Et par exemple, un bon exemple dans le livre, on n'a pas évoqué ce personnage, mais il ne manque pas de pittoresque, c'est Jiang Zemin, qui a été le successeur de Deng Xiaoping, et qui est resté une sorte de pouvoir semi-occulte dans la coulisse sous Hu Jintao. Et il a contribué à l'élimination de Bo Xilai et l'accession au pouvoir de Xi Jinping, si je ne me trompe pas.
Bon, ben c'est l'heure, on va arrêter là. Voilà. Écoutez, merci, c'était formidable, ça a passé très vite, c'est vraiment un livre passionnant. C'était La vie est un roman sur Aligre FM. Voilà, à la semaine prochaine et bonne semaine.